Simon Tremblay, Marc Tiquet et Fred Gagné.
À midi 23, ça faisait beaucoup de conférences de presse pour la journée d'hier, mardi. Ça commençait à 13h avec François Legault, point de presse habituel. Après coup, tu avais le point de presse de la santé publique régionale. Tu as eu ensuite, en fin de journée, les fameuses courbes qu'on attendait, qui ont été présentées aux journalistes en premier, par la suite aux médias. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'attendaient à trop de cette présentation-là parce qu'il y a une déception globale dans la population. Vu que ça n'a pas été une modélisation faite seulement avec les chiffres du Québec ou encore les pronostics des experts, mais plutôt on s'est basé sur ce qui s'est fait ailleurs.
Ben c'est oui.
Moi, c'est ce que je m'attendais, puis je voulais savoir à quel endroit il plaçait le haut de la crête, puis j'ai eu cette date-là. Ça aurait pu être réglé très, très, très rapidement s'il l'avait dit déjà dans un point de presse régulier, puis on aurait peut-être évité cet exercice-là.
Il faut bien comprendre une chose. On peut se baser sur le modèle allemand ou le modèle ou le scénario italien, mais c'est pas une science exacte. On dit, voici un scénario, voici un autre. On pense peut-être qu'on est plus d'un côté que de l'autre, mais... Les gens sont humains. On aimerait ça, Simon, avoir des garanties. On aimerait ça que Papa Legault, puis Papa Arruda, puis Maman Mécane là, nous disent « Hey, les Québécois, Québécoises, le 4 mai, je vous garantis, vous allez pouvoir vous promener en babouche au centre d'achat. » Ils peuvent pas nous dire
probablement
ça.
Probablement que les gens, effectivement, s'attendaient à ça. On s'était fixé un deuxième rendez-vous cette semaine avec le docteur Gaétan Barrette, député de Lapinière pour le Parti libéral du Québec, ancien ministre de la Santé. Docteur Barrette, bonjour.
Bonjour.
Comment qualifiez-vous l'exercice d'hier?
Ben, c'est intéressant ce que vous autres, vous avez compris de ça. Vous êtes dans le mille, là, c'est clair, clair, clair. Ça, c'est pas une prévision, c'est un calque. On a calqué, là, on a pris notre situation. On a regardé quel pays qui nous ressemblait le plus pour ce qui est du scénario optimiste. Et on a appliqué dessus nos chiffres et nous autres. Hier, ce qu'on a vu, là, c'est raisonnable. C'est pas la perfection, puis t'as pas voulu près de la perfection. C'est raisonnable, ça fait que moi, je trouve ça possible. Je vais vous dire une autre affaire. Ce qui est important pour moi, moi, quand je regardais ça, là, je suis allé direct au scénario pessimiste. Suite. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est dans leur calque à eux autres, là, dans le scénario, dans le pire scénario, est-ce qu'on est capable de prendre? La réponse est oui. Ça, c'est la première affaire que j'ai regardée, puis c'est ça qui devrait nous intéresser le plus. On est capable de le prendre. Il va y avoir de la houle, là. Il y aura bien de la vague sur le lac, là. Si on avait le scénario italien, mais on serait capable de le prendre, tout le monde aurait accès à un respirateur.
C'est ça. Bon, quand vous dites on serait capable de le prendre, c'est le système de santé.
Oui, je parle du système de santé. Okay. En Italie, là, parce que quand on pense à l'Italie, c'est effrayant. En Italie, ils sont obligés de choisir qui vit, qui meurt, qui a accès au respirateur, qui n'a pas accès au respirateur. Dans le scénario qu'il nous a proposé hier, là, on est tous capables d'avoir accès à un respirateur. Ça fait un système de santé surchargé, là. C'est clair. Mais pas au-delà de notre limite. On est préparé pour ça. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, un scénario optimiste, lui, peut changer de place. Là, mais à partir du moment où on est capable de le prendre, je suis content.
Et le scénario, les courbes, si je comprends bien, c'est si tout le monde maintient son confinement puis respecte les règles.
Ben oui, parce que ça, là, ils n'ont pas assez insisté là-dessus le coup hier. Ils auraient pu montrer des courbes européennes où il y a des pays, là, vous avez vu la base quand ça commence à descendre, puis il arrête au 30 avril. Ben, je peux vous dire que si on ne respecte pas les consignes dans ce coin-là, ça repart en haut, en flèche. Garanti, ça c'est vu, la courbe est exactement comme ça, amonte, petite base, ça commence à descendre, puis oups, ça repart par monte comme une folle. Alors ça, là, c'est si on ne respecte pas. La grande peur, là, du docteur Arruda, par exemple, là, la grande peur, c'est qu'en montrant ça, les gens se disent « Ah ben, ça va bien. » Donc, il fait beau dehors, je sais pas chez vous aujourd'hui. Mais à Montréal, le ciel est bleu, il n'y a pas un nuage. Fait que là, lui, il a peur qu'en voyant ça, le monde se garoche dehors. C'est effectivement la dernière affaire à faire.
Dites-moi, Dr Barrette, quand mon collègue Fred disait tout à l'heure, les Québécois auraient probablement aimé avoir la date de reprise des activités. Quand on regarde cette courbe-là, est-ce que vous nous disiez lundi, c'est-à-dire que la reprise possible partielle le 4 mai, ça tient toujours?
Absolument. Okay. D'ailleurs, c'est pour ça, eux autres, là, je leur ai posé la question, je les ai appelés. J'ai dit, le premier ministre a parlé du 4 mai, vous avez arrêté votre courbe au 30 avril, pourquoi? Ouais, mais là, on n'est pas sûr. Ça va dépendre de comment la progression des. C'est pour ça. Ce que les autres, dans leur tête, c'est clair, là, que progressivement, dans le mois de mai, on recommence. Mais là, la courbe, elle est là. Si, dans le mois de mai, progressivement, d'une shot, on arrête de faire les mesures là, de lavage, de distanciation et ainsi de suite, la courbe qui nous aurait présenté, elle aurait été fausse. La courbe qui continue, là, elle commence à descendre hein, jusqu'au 30 avril. Maintenant, elle devrait descendre jusqu'à la fin du mois de mai. Mais ça va dépendre de nous, comment qu'on va suivre les mesures au mois de mai. Si on les suit pendant le retour progressif, la courbe descend jusqu'en bas, et là, on a un été que de l'allure. Si, pendant le retour progressif, on se garoche dehors tout le monde puis on commence aux activités, on va passer peut-être les vacances en dedans. C'est ça l'affaire. Ils n'ont pas voulu monter plus loin parce que c'était trop risqué. Les gens, il va falloir les convaincre dans le mois de mai, là, et en avril aussi, de continuer les mesures malgré un retour progressif au travail. Mais moi, dans mon esprit, là, c'est clair, clair, clair que dans le mois de mai, on revient progressivement sur une période de 4 à 5 semaines à la normale.
On spécule beaucoup, M. Barrette, puis vous êtes un spécialiste en santé, là, mais vous connaissez un peu la politique, vous connaissez un peu les tensions sociales. Là, présentement, tout le monde fait son effort de guerre, mais à un moment donné, l'élastique a ses limites. Quelles sont, selon vous, reliées avec la santé, les mesures qu'on va pouvoir redonner aux gens le plus rapidement possible? On parle beaucoup de l'industrie de la construction. On parlait tantôt en préambule de garage. Quelles sont les industries à qui on va pouvoir donner de l'air en premier?
Les industries, bien, écoutez, tout ce que de la distance, là. Fait que dans une usine, là, il y a de la distance. C'est rare que les gens sont cordés les uns sur les autres. C'est pas comme un édifice à bureau au centre-ville de Montréal, mettons. La construction, les gens... bon, vous allez me dire, dans le résidentiel, on est pas mal plus proche. Mais quand même, dans le résidentiel, on peut se distancer aussi. La grosse construction, ça, c'est sûr qu'on peut distancer. Allez, c'est un chantier de grosse construction, là. Le monde ne travaille pas à une longueur de vol l'un de l'autre, là. Alors, ce genre de choses-là, bon, les dernières affaires qui vont prendre, c'est les centres d'achat, là, ces affaires-là. Puis, il n'y aura pas de regroupement de masse dans cette période-là. D'ailleurs, on le voit, là, il annule le Grand Prix de Formule 1. Et ça va se faire une semaine à la fois. C'est comme ça que je le prévois. C'est bien correct comme ça. Et nous, ben, on continue à faire attention toute cette période-là.
Monsieur Barrette, je veux qu'on parle un peu de la santé qui a un coût financier. Présentement, chaque vie compte, mais il y a des gens quand même qui mettent un peu en opposition, pas pour mal faire, mais la santé, ça a un coût et le coût va être assez astronomique. Présentement, Justin Trudeau a dit, on va acheter 30 000 respirateurs artificiels. Ce sont des chiffres qui sont gargantuesques, d'autant plus que même dans les scénarios pessimistes, on n'entrevoit même pas utiliser 30 000 respirateurs artificiels, surtout pas en même temps. Là, l'histoire du bar ouvert au nom de la santé, c'est une bonne ou une mauvaise chose?
Ben, c'est-à-dire que vous souhaitez quoi, vous, si vous êtes malade? Vous allez souhaiter avoir accès aux meilleurs soins, aux meilleurs équipements. Alors, est-ce que aujourd'hui, la question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que vous souhaitez qu'on en ait un peu plus que nécessaire ou un peu moins? Voulez-vous être la personne qui ne l'aura pas? C'est ça la question, là. Alors, c'est sûr que Justin Trudeau a 30 000 respirateurs. J'ai trouvé qu'il allait pas mal fort, là. Et peut-être que des informations que moi, je n'ai pas. Alors, moi, je ne le critiquerai pas là-dessus. Sur le 30 000 respirateurs, parce que si ça va mal, ça va mal. Il y a des provinces, dont l'Ontario, qui semblent avoir quelques problèmes de ce côté-là. Ça fait que là, on est dans la prévention. Et après ça, on pourrait dire que c'était trop, mais je pense qu'actuellement, c'est correct. Bon.
Dernier volet que je voulais éclaircir avec vous, je sais que vous n'avez pas nécessairement les chiffres régionaux, mais ce qu'on nous a donné hier au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a une augmentation de 10 cas pour un total de 103 cas positifs à la COVID-19. Et c'est un cumulatif. On précise maintenant quotidiennement que le nombre de cas rétablis, il y en a 35 maintenant. Donc, pourquoi ne pas soustraire ces cas-là au total?
José, franchement, le nombre de cas rétablis, pour moi, ça a bien, bien plus d'intérêt parce que le virus, c'est pas compliqué, là. C'est lui ou c'est vous. Là. Vous êtes vivant après l'infection, là, ben, vous êtes rétabli. C'est pas compliqué, le virus. Là, sa job, là, c'est de se servir de nous autres pour se reproduire, puis en se servant de nous autres, il peut vous tuer. Donc, le virus, là, quand vous avez fini votre COVID-19, même si vous êtes asymptomatique, vous pouvez le porter encore, vous pouvez l'avoir sur vous encore quelques jours, une couple de semaines, puis après ça, il meurt. Alors, moi, le nombre de gens guéris, là, c'est pas compliqué. Un abrégé qui l'a, qui est encore vivant 2 semaines après, il est guéri. Donc ça, c'est une statistique qui, pour moi, n'a pas beaucoup d'importance. Le nombre de cas, par exemple, ça, ben, j'ai hâte de voir combien qu'il y en a dans la réalité, puis on va le savoir avec des tests sérologiques. Si vous et ceux qui nous écoutent le font, la COVID-19, ben, on va développer des anticorps. C'est comme un sondage. Si je prends 1000 personnes et que je leur fais une prise de sang, c'est que 30% des gens qui ont des anticorps, ben, il y a 30% des gens qui ont été infectés sans le savoir pour la majorité. Si on ne le sait pas actuellement, il faut faire ces tests-là. Pourquoi? Parce que à l'automne, là, il risque de revenir, le virus. Est-ce qu'on va avoir une immunité collective assez forte? L'immunité collective assez forte, c'est un maximum de gens qui ont des anticorps. Là, on ne sait pas, c'est impossible à savoir sans faire une enquête sérologique, donc des prélèvements au hasard, qu'on fait après, pas pendant.
Avec les priorités de tests qu'ils ont fait pour l'instant, statistiquement, on peut pas savoir.
Non, puis les tests qu'on fait, c'est des tests pour savoir si les gens l'ont dans le nez, dans la gorge. Ça, c'est pas un test d'anticorps. Puis en plus, vous parlez de priorité de test, hein, ben bon commentaire, parce que là, on n'a pas assez. Alors, idéalement, on teste tout le monde qui a un symptôme, on fait des tests aléatoires. On peut pas le faire, on n'a pas assez. Hier, à la télévision, j'entendais un travailleur de la santé réclamer qu'il y ait un test par travailleur par semaine. Écoutez, après la première semaine, là, on n'aurait pas pu tester tout le monde parce qu'on les a pas, les tests. Fait que faire ça une fois par semaine, c'est impossible. Alors là, on cible les gens à risque. Effectivement, aujourd'hui, ils sont aussi plus voyageurs, c'est les travailleurs de la santé. Il y en a dans la population. Mais à la fin, là, il va falloir faire des tests d'anticorps pour savoir combien de monde l'ont eu. Parce que, admettons, on va faire, je vais vous donner deux chiffres. On considère, dans cette science-là, que si 60% du monde a des anticorps contre la COVID-19, on a une immunité de groupe telle que le virus ne peut plus rien faire. Il va juste frapper du monde immunisé, il va mourir là. Alors, à l'automne, c'est terminé. À l'autre extrême, si vous avez 1% du monde qui a des anticorps, bien là, il n'y a pas à peu près d'immunité de groupe. Ça veut dire que le virus, il revient et ça recommence. Alors là, il va falloir être prêt. À partir de maintenant, là, il y a deux enjeux. Là. Il faut finir la première vague comme du monde. Vous partez en vacances, vous allez sur le bord de la mer, là, vous ne pouvez pas vous baigner avant d'arriver à la mer. Là, actuellement, c'est la même affaire. On doit maintenir les mesures jusqu'à la fin mai. Et là, un coup, on est rendu là. Si le virus est parti ou c'est très bas, bien, on se prépare pour l'automne. Équipement, tests et ainsi de suite.
Peut-être, c'est ça qui est l'enjeu, là. Peut-être améliorer le contrôle dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées privées aussi. Ici, là, c'est particulièrement celles-là qui sont touchées. Là.
Ben, moi, je vais vous dire une affaire. C'est sûr que collectivement, là, sans... Ça ne sert à rien de lancer la pierre à un et à l'autre, là. Mais celle-là, c'est là où on a été le moins bon. Alors, les CHSLD, il faut se revirer de bord maintenant. Et puis, dans le futur, il faut. C'est un enjeu de formation, c'est un enjeu de disponibilité de matériel de protection, c'est un enjeu d'organisation du travail local, c'est un enjeu de quantité de personnel aussi. Alors là, c'est clair qu'il y a. Des gros efforts à faire à partir de maintenant, et particulièrement dans le matériel de protection du personnel et des tests et de la formation, je m'excuse. Je donne un exemple bien simple. Plus simple que ça, c'est impossible. En rétrospective, là, 100% des gens en CHSLD devraient avoir un masque 24 heures par jour. Là.
Comment vous dites?
100% des patients en CHSLD devraient avoir un masque tout le temps.
Présentement, ça.
Pardon?
Présentement ou tout le temps, vous dites?
Non, présentement. Ouais. Et pendant une éclosion comme ça, on ne les a pas les masques. On n'a pas en quantité suffisante. Alors, il y a plein d'éléments comme ça. Le personnel n'a pas accès à suffisamment d'équipements. Là, tout le monde est en pénurie. On nous le dit à chaque semaine. On en a pour une semaine et ainsi de suite. Alors, il y a une réflexion à faire à la fin de ça, à comment ça va être fait, pour revirer ça de bord d'une part, puis se préparer mieux la fois d'après. Parce que vous avez raison, on a eu beaucoup de difficultés en CHSLD.
Guétan Barrette, merci infiniment.
Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Pareillement, Guétan Barrette, député de la Lapinière pour le Parti libéral du Québec, ancien ministre de la Santé également. Tout aussi éclairant comme analyse des courbes qui ont été dévoilées hier, 12h38, avant de partir en pause, Fred.